On déguste vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons d'Orabastins. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Hola a todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour. Jean-Claude Lartigue est à l'action. Il vient de déboucher un prélude, domaine de Guillot. C'est ce vin-là qu'on va déguster pour commencer nos conversations aujourd'hui. Émission spéciale consacrée au festival de Montpezat-Quercy, le festival Bleu Trompette, qui va se dérouler du 1er juillet au 29 août. Un festival qui mêle les arts plastiques, la peinture et la musique. Et aussi... Le savoir bien manger, bien boire. Hein. La preuve, c'est qu'on est accueilli ici, directement au domaine de Guillot. On est dans la cour de chez Jean-Claude Lartigue, à l'invitation de Joël Mouriot, patron du festival Bleu Trompette. Salut Joël.
Salut Rémi.
Comment ça va ?
Excellent. Très bien, avec un temps magnifique.
Merci d'organiser tout ça pour présenter, en fait, hein, l'idée de cette rencontre aujourd'hui, c'est de présenter le festival Bleu Trompette, tout ce qu'il va y avoir pendant... 2 mois à Montpezat.
C'est exact, et en même temps une valorisation du terroir.
Voilà, puisqu'il y a des partenaires au Festival Bleu Trompette. L'un d'entre eux, c'est Jean-Claude Lartigue du domaine de Guillot. C'est pour ça qu'on est chez toi. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Merci d'être là. Merci de nous recevoir aussi.
Du coup. Avec plaisir.
On va déguster deux choses importantes. Le rosé mémé, qui est en fait le rosé partenaire, hein, si j'ai bien compris, du Festival Bleu Trompette, c'est ça ?
Voilà, le rosé Coteau du Quercy, domaine de Guillot, 2014.
Rosé mémé.
Le rosé mémé, voilà. Et en plus, cette année, je vais vous présenter un dernier produit, mon vin blanc Vionnier Chardonnay.
C'est
celui-là. Récolte 2014, voilà.
C'est celui-là qui s'appelle Prélude.
Voilà, on l'appelle Prélude, voilà.
D'accord. Merci d'être là également, Benoît Leverrier. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien, je suis en train de vous préparer quelques petites douceurs.
Benoît Leverrier du Mas de Monille, c'est du cochon gascon, je pense.
Port-noir gascon, tout à fait.
Port-noir gascon.
Élevé, transformé sur l'exploitation.
On fera aussi un bout de discussion tout à l'heure avec Bernard Perron, qui est cet artiste associé au Festival Bleu Trompette, qui est le concepteur de ce fameux Réduchon. Bonjour Bernard Perron. Perron, là, le micro, là.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va bien, merci. Les Réduchons vont bien également.
Alors, on peut démarrer, si
c'est
ça.
Réduchons.
C'est les Réduchons.
Est-ce qu'on peut avoir des réductions ? Des réductions sur la réduction.
Ouais.
Allez, on commence comme ça. C'est qu'est-ce qu'on déguste, Aurélien et aux platines. Nous, on se remplit les verres le temps que le quatuor de Jazz After Hour démarre cette émission avec Merci, Merci, Merci. Yeah. au clavier, Nicolas Gallois, Jacques Valette à la guitare, Pierre Rouquette à la batterie, à la contrebasse, l'inénarrable Georges Bonfils, le quatuor After Hour avec le morceau Merci, 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 merci messieurs. Et donc pour le cas en fait, le quatuor continuera de jouer tout à l'heure.
Pour le plaisir de tous, pour les invités.
Parce qu'un quatuor de jazz, comme disait Pascal, quand ils se sont installés, tu les installes quelque part et puis après ça tourne.
Ça s'appelle un quartet.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Un quatuor.
J'ai dit un quatuor ? Ouais,
c'est pour un quartet.
Quatuor, c'est pour la musique classique. Classique.
Pardon. C'est un quartet. Merci Georges d'avoir officié. Alors, si on prenait ça depuis le début, Joël, le festival Bleu Trompette, combien d'éditions ?
Bah, c'est la 4e édition, et ce que je voudrais bien expliquer, que le festival Bleu Trompette, en fait, c'est comme une poupée russe, mais on va dire c'est un port gascon. C'est-à-dire que tu lèves la première, c'est le festival Bleu Trompette, tu lèves à l'intérieur, il y a deux mois d'expo. Quand tu relèves dans les deux mois d'expo, il y a deux créations, il y a un collectif d'artistes qui va exposer dans les rues de Montpezat, chez les commerçants actifs, et les malheureusement, parce que nous sommes dans une zone rurale où les magasins ferment, donc on va exposer pendant deux mois, ce qui fait que les gens, quand ils vont passer dans les rues, il n'y aura pas forcément, par moment, une partie déserte comme on trouve dans toutes les...
D'accord. C'est-à-dire que même les magasins qui sont fermés, il y aura des réduchons
Non, il n'y aura pas de réduchons. Il y aura un collectif d'artistes qui vont exposer. La base, c'est le bleu ou la musique. Donc ça, c'est dans les magasins. Par contre, nous avons créé, ça c'est le deuxième cochon gascon, tu lèves le deuxième cochon, on a créé une idée, c'était le Réduchon. C'est un personnage de BD qui valorise le métier, les actions qui se passent dans les zones rurales. Donc on est allé du boulanger jusqu'au l'épicier, jusqu'au maire, au curé, au facteur, au vigneron, dont il y en a un ici. Tu as le maire aussi qu'on a exposé, ça fait 2 mètres de hauteur. Mais moi, je peux en parler, j'ai l'idée, mais le concepteur graphique, l'idée de le travail à la main, c'est Bernard Perron qui va se faire un plaisir de développer. Ben ensuite, oui. il y a 3 jours de concert, donc ça, c'est le 3e étage du cochon gascon. Et à l'intérieur, il y a 3 soirées. Dans les 3 soirées, le jeudi 23 juillet, il y a un marché gourmet où on retrouvera Jean-Claude Lartigue et d'autres partenaires où... Le plaisir simplement de partager des moments, et il y aura avec deux chansonniers que tu connais d'ailleurs.
Les Folkeux, c'est vachement bien. Les Folkeux, ils sont extraordinaires. C'est un accordéoniste et un banjoïste. Vous pouvez leur demander n'importe quel morceau, depuis Brassens jusqu'à ABBA, en passant par Queen ou Les Doors ou Motorhead. Ils savent jouer. C'est incroyable.
Ou du Brassens. Donc l'idée, c'est de retrouver un peu la partie conviviale qu'on trouvait autrefois, le plaisir de chanson et de partager un moment.
Qu'on trouvait autrefois, tu veux dire que c'était mieux avant.
Non, j'ai pas dit que c'était mieux avant, c'est-à-dire qu'on a perdu cette habitude, de partager des moments sur les places de la mairie. Et après, les deux autres jours, le 24 et le 25, il y aura Place du Réduche, d'où le nom Réduchon aussi, Place du Réduche, il y aura 2 concerts gratuits. Dont un qui est Sofas, qui est du Maiola. Je ne sais pas si tu connais Maiola.
Ah, le Maiola, ça vient des îles. Ça.
Voilà, c'est une des îles.
De la Réunion.
La Réunion, et c'est de l'océan Indien. Et si tu veux, l'idée, je les ai découverts à Marcillac. Et j'ai trouvé ça, ce sont des jeunes de Toulousains qui ont une pêche d'enfer. J'ai dit, tiens, ce sera l'occasion d'apporter quelque chose en plus. Et le lendemain, eh bien, il y a Ricard Shelley Quartet qui va... Bon, là, on est plus dans du classique, dans du jazz. Mais Georges pourra le développer un peu plus.
Ah ben voilà, on a fait le tour déjà là en si peu de temps. Le pitch est super bien fait, Joël Mourinho, pas de problème. On va dire un mot, avant de parler des Réduchons avec Bernard Perron, on va dire un mot de ce prélude qui part à une vitesse incroyable. Mon verre était plein tout à l'heure, il est vide maintenant.
Il y a de l'évaporation.
C'est voilà. Qui doit être bon alors.
Oui, ou que tu n'en mets pas beaucoup, je ne sais pas.
Oui, il n'y en a pas beaucoup, alors il faut l'économiser. Alors, c'est la première récolte, alors elle n'est pas très importante. Quoi.
Alors c'est quoi cette idée du prélude déjà?
Déjà c'était une idée de faire du vin blanc pour essayer de diversifier la gamme. Bon, Coteau du Quercy, vous connaissez tous, c'est du rouge et du rosé.
Donc on a... et puis ça fait un moment que toi tu es repéré avec le domaine de Guillot dans les vins des Coteaux du Quercy. On te connaît, on connaît ton vin, il est bien distribué. Tu dois vendre toute ta récolte jusqu'à pas loin de chez toi.
Oui, ça va, hein, on la vend bien, oui, même on la vend même un peu à l'étranger.
Ouais.
Un petit peu en Allemagne, un petit peu.
Il y a quelques médailles qui passent.
Il y a quelques médailles. Alors maintenant, 3 étoiles coup de cœur ou 2 étoiles coup de cœur. C'est-à-dire que Guy achète et il lui donne ça maintenant parce que s'il fait un tel foin quand il a pas de médaille, que
c'est pas vrai.
Voilà, on va le remettre. Dans...
Mais... non, le Guy achète, c'est très sérieux, comme tous les concours d'ailleurs. Les concours, on est dégusté aveuglette. Quand on a la chance d'être élu, c'est très bien. Moi, je fais beaucoup de concours parce que comme le Coteau du Quercy, c'est une appellation qui est très peu connue, ça permet de se faire un peu de publicité, surtout le concours de Paris. Cette année, j'ai eu malheureusement une médaille de bronze avec du rosé que vous goûtez là. Mais bon, c'est comme ça. Mais le Guy d'Achette 2015, oui, m'a donné coup de cœur 3 étoiles avec le rouge et le vin fait de chêne que j'appelle maintenant, depuis un an, Plénitude. Voilà, qu'on goûtera tout à l'heure. Mais pour revenir au vin blanc, cette idée, c'était justement pour diversifier la gamme, de faire un vin blanc. Bon, Coteau du Quercy, non, ce n'est pas un Coteau du Quercy, c'est un IGP, Identité Géographique Protégée. Donc on pouvait planter beaucoup de choses, beaucoup de cépages différents. Moi j'ai choisi le Viognier et les Chardonnays avec les conseils d'un œnologue qui m'a parlé du Viognier, que je connaissais très peu il y a quelques années. Le Chardonnay vous le connaissez tous, mais le Viognier c'est un cépage qui est plutôt dans les Côtes-du-Rhône, un cépage qui est un peu chaud quoi.
C'est le cépage roi du Condrieu, le Condrieu, voilà. Le roi des vins blancs.
Est-ce que c'est une mode cette histoire de faire du vin blanc, puisqu'il y a de plus en plus de vignerons dans la région qui se mettent à faire du vin blanc, notamment aussi qui ressortent le Viognier, hein, pense au Calixte de notre
Calixte
ami
de
Guillaume Vérac.
Le
Bellevue-la-Forêt également. Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est la chambre d'agriculture qui pousse les vignerons aujourd'hui en disant bah, tiens, là, il y a un marché, il y a une niche, on peut développer le vin blanc? D'où ça vient cette histoire que les vignerons aujourd'hui se mettent à faire du vin blanc?
Non, je sais pas, c'est peut-être pas tellement la chambre, c'est surtout que les vignerons maintenant voyagent beaucoup, font des foires. Moi, c'est le cas, j'ai rencontré d'autres viticulteurs qui m'ont parlé de vin blanc, j'ai goûté du vin blanc et on a voulu essayer de faire quelque chose. Quoi. Après, la chambre d'agriculture nous aide beaucoup puisqu'on a des œnologues qui sont fournis par la chambre d'agriculture, qui nous font le suivi œnologique, les conseils. Voilà, les vendanges, enfin, tout, pour l'élevage du vin, tout ça. Mais le choix du cépage, il y avait beaucoup de cépages, c'était difficile de choisir. Donc j'ai choisi le Viognier. C'était surtout pour avoir quelque chose de différent. Bon, tu as dit qu'il y avait beaucoup de Viognier, mais enfin, dans le Tarn-et-Garonne, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et il y a quelques années, il y avait 20 ou 30 ans, je crois qu'il a resté que très très peu d'hectares en France. Quoi. À part peut-être dans les régions de Condrieu. Même dans la côte rôtie, je crois qu'ils le mettent même dans le vin rouge.
Oui.
Voilà, ils ont une complantation, c'est-à-dire ils ont des plantes de blanc, ce qui permet d'avoir des vins très, très aromatiques. Voilà.
Donc, c'était un nouveau challenge pour le domaine de Guillot. On s'est dit, on sait faire du rouge au domaine de Guillot, on fait des bons vins, on fait des bons rouges. Est-ce qu'on repart sur quelque chose qu'on ne connaît pas et on va apprendre et on va essayer de décrocher, d'aller en haut?
Voilà, c'était surtout pour un nouveau challenge. Ouais. Après, notre quand même, cheval de bataille, c'est quand même le rouge et le rosé des Coteaux du Quercy. C'est quand même ce qui nous a fait connaître et ce qui nous permet de vendre au-delà de nos frontières. Parce que le vin blanc, c'est un peu plus difficile. On se heurte quand même à des concurrents
sérieux,
que ce soit les Pouilly, les vins du Mâconnais. Enfin, tous les vins blancs en France sont tous très bons.
Vous non, écoutez
on
CFM.
On va en prendre un coup, d'ailleurs.
On va en prendre un coup, ouais. On est au domaine de Guillot, chez Jean-Claude Lartigue. On fait une émission spéciale Festival Bleu Trompette, un festival où il y aura forcément... du jazz?
Et il y a du jazz, bien sûr. Il y aura du jazz avec un trompettiste catalan, Ricard Gili, qui est déjà venu à Montauban dans un big band qui s'appelle la Loco Mutara Negra. C'est un big band catalan de Barcelone qui date de 1971 et qui dure toujours, qui a plus de 30 ans d'existence. Il en est le directeur et le principal soliste. Là, nous l'écoutons en petite formation parce qu'à Montpezat, il viendra en quartet avec Jean-Marc Bonto au piano et Richard Hertel à la batterie. Là, nous l'écoutons dans un standard de New Orleans, c'est Strutting with some barbecue.
C'est bien, t'es toujours aussi bon en anglais.
En anglais. Et ça va pas s'améliorer.
Il faut le servir à 12 degrés. Oui, mais tu peux.
Alors, oui, il faut que j'en parle un peu, ouais.
Alors, attends, mais on va en reparler après.
D'accord, ouais.
D'accord, parce que là, sinon après, on se fait toujours engueuler quand on parle sur le jazz. Donc là, sur le jazz, on boit des coups et on en parle après. Hein? On parle sur le jazz.
Mais vous pouvez écouter le trompettiste Ricard Gilly qui sera à Montpezeur le 25 juillet, le vendredi 24, le samedi 25 juillet. Ça y est, si j'ai le texte sous les yeux, je le saurai.
C'est bien. D'accord.
Bravo. Donc vous pourrez l'apprécier à Montpezeur le 25 juillet.
Bravo, bravo, bravo.
Georges,
toujours aussi beau.
Un calendrier bien compris.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Spécial Bleu Trompette. Mesdames, messieurs, le festival Bleu Trompette, donc festival pluridisciplinaire, comme on dit dans ces cas-là, se déroule à Montpezat-Quercy du 1er juillet jusqu'au 29 août avec un point d'orgue musical les 23, 24 et 25 juillet. Le reste du temps, si vous passez à Montpezat-Quercy, vous verrez dans les vitrines un collectif d'artistes qui exposent et puis vous verrez un petit peu partout ces fameux Réduchons. Alors les Réduchons, on a Bernard Perron qui est là avec nous. Ils ont été créés vraiment pour l'occasion, hein, pour le festival Bleu Trompette.
Ah oui, absolument, c'est l'idée de la place du Réduche qui a donné le nom au Réduchon, c'est-à-dire qu'on leur a donné un petit côté quercinois, ils ont un béret, ils ont les yeux bruns, ils ont une tête de cochon, je ne sais pas si c'est vraiment adapté, mais bon, c'est la suite, si vous aimez mieux... de la précédente exposition où on avait parlé des cochons. Les cochons aiment aussi la musique. Donc on a voulu un peu réhabiliter cet animal à qui on attribue tous les défauts. Hein. Quand un travail cochonné, c'est vraiment pas propre.
Ouais,
hein.
Un travail c'est de cochon.
Propre, quand on dit tu te conduis comme un cochon et ainsi de suite. Alors qu'en fait, c'est un animal sympathique et puis qui est quand même notre lointain cousin quelque part. Hein. On lui pique des morceaux pour nous réparer. On est quand même très, très barbare avec le cochon. Donc, on a essayé de lui donner un côté sympathique. Ils sont tous souriants, mes Réduchons. Ils ont un côté un peu innocent. Mais derrière l'innocence, il y a quand même des petites choses qui se cachent. Hein. Il y a,
Tu t'es basé sur des vrais gens ? Il y a des modèles
On a pensé quand même à tous les gens qui avaient une activité dans le village, y compris le maire. Hein, vous l'avez là à côté. Il a eu un peu peur qu'on le fasse un petit peu plus hard, tu vois.
Est-ce qu'il y a des têtes de cochon à Montpezat ?
Oh oui, comme partout.
Comme partout. Et on peut les retrouver dans les Réduchons.
Oui, comme on trouve. D'accord. Voilà. Il y a le facteur, il y a le curé aussi. On n'a pas loupé le curé hein, quand même. Il fallait le faire.
Hein. Il y a le boulanger, il y a le vigneron.
Il est là aussi. On l'a ramené, le vigneron. Et puis il y a la touriste aussi qui se penche un petit peu inconsidérément. Enfin, il y a des petites choses un petit peu coquines, mais gentillettes.
Il y a le musicien qui a eu de la chance.
Il y a que le musicien qui y a échappé. J'ai pas voulu faire Georges avec sa grosse.
Ah oui, oh, bravo.
Et cochonne.
Réduche, donc place du Réduche, d'où Réduchon. Mais c'est quoi Réduche ?
Bah, Réduche, c'était un endroit où on se cachait, je crois. Là, où on se réfugiait, c'était mieux.
D'accord.
Je crois que c'est ça l'origine en patois quercinois. C'est ça, c'est l'endroit où on se réfugiait, où on se. Il y a plein de places comme ça où on amenait les animaux pour les réfugier. Alors, je pense que le Réduche, c'est un petit peu ça. Voilà.
Moi, j'aime beaucoup la petite serveuse. Hein.
Ah, la serveuse
la
est assez serveuse coquine.
La serveuse avec l'ouvrier.
Alors là, oui, effectivement. On n'a pas osé la mettre là où elle devait aller, quand même. Hein. Personne n'a osé la porter là-bas au restaurant où elle devait aller.
Donc, ce sont des peintures sur des bois découpés, oui. Des plaques de contreplaqué découpées, qui ça fait 2 mètres de haut. Et là, il va y en avoir partout dans Montpezat-Quercy.
Partout, il y en a une quarantaine. Hein.
Quarantaine dans Montpezat-Quercy.
Oui, aux grandes dames de Joël, qui en aurait bien voulu 80. Mais enfin, moi, j'avais à la fin une petite indigestion de Réduchon. Quoi.
D'accord. Non, mais il faut y aller mollo, parce que si on l'écoute...
Il faut y aller progressivement. Alors, bien sûr, il y a d'autres idées qui viendraient. Hein. Je pourrais faire le collectif de radio, là, en Réduchon aussi. Ça serait sympa.
Ça
On l'a échappé belle.
Vous l'avez échappé belle.
Je ne paie rien pour attendre.
Merci, messieurs.
Parce qu'en plus, toi, je trouve que tu as une tête qui
résonne. Une tête de cochon.
Une tête de Réduchon.
Une tête de cochon, voilà.
Une tête de Réduchon.
J'ajoute qu'ils sont quand même tous souriants, sympathiques.
Oui.
Ils ont tous une intention dans le mouvement. Il y a une dame qui m'a fait un compliment, qui m'a dit, mais ils ont tous l'air de faire quelque chose, d'avoir...
Bernard Perron, est-ce qu'il y aura une bande dessinée ? Est-ce qu'on va le voir à l'heure avec un scénario ?
C'est le rêve de mon collègue.
C'est le rêve de Joël Mourion. Oui.
Alors, je prends vite la relève. Effectivement, on a un projet, mais c'est un problème de financement.
Bah attends, il y a le maire qui arrive.
Oui, ouais, mais c'est pour ça que je l'ai invité, d'ailleurs. Il ne faut pas croire. Donc, l'idée, c'est que l'année prochaine, il y aura un Réduchon part en voyage. Donc, il y aura un Réduchon qui ira au Mas de Monille ou pas, parce qu'on cherche des partenaires, donc il faut en profiter pour le caresser dans la sauce du poil. Mais
de la cochon.
L'idée, c'est qu'un Réduchon ou des Réduchons ou une famille Réduchon partent en balade et avec il faudrait avoir un photographe avec nous de façon à ce que on puisse prendre des scènes de réduchons dans le bus, les réduchons descendent, vont au café, vont acheter de la viande, vont à l'épicerie, j'en sais rien.
Je crois que depuis qu'il a pris la retraite, Joël Mourio fume.
Je pense que
je pense qu'il fume.
Fume la moquette. Jean-Claude Lartigue, un mot sur ce prélude qu'on est en train de déguster, sur sa fabrication même, c'est ça hein.
Voilà, alors c'est un vin, c'est un raisin d'abord qui a été récolté à la main. À la main.
On est dans le Viognier, on a dit, plus le Chardonnay.
Le Chardonnay, voilà. Dans le Viognier, Chardonnay, c'est pas tout à fait la même.
C'est la parcelle qui est juste derrière la maison qu'on a vue tout à l'heure, là.
Voilà, la parcelle que tu as vue juste à côté de.
Qui fait combien?
Un hectare.
Un hectare.
Voilà, donc cette année, on a fait une première vendange à la même. Parce que, disons que le vin blanc, j'ai préféré le vendanger à la main pour pouvoir le presser facilement. Je l'ai d'abord mis au frigo. Voilà, je l'ai vendangé à la main et mis dans des cajots au frigo. Donc je l'ai refroidi.
D'accord.
Pour pouvoir le presser à basse température.
Qu'est-ce que ça apporte de mieux, ça?
Et ça conserve les arômes pour éviter l'oxydation. Voilà. Et comme la vigne était jeune, c'était difficile de vendanger à la machine. Et bon, il y avait quelques raisins qui étaient un peu pourris, parce que 2014, il y avait eu un peu de pluie. Donc, ça nous a permis de le trier.
D'accord. Donc, il y a de la sueur dans le, voilà, dans le prélude cette année. Mais si j'ai bien compris, il ne sera pas forcément tout le temps ramassé à la main. Une fois que la vigne sera un peu plus costaude et qu'elle pourra accepter la machine.
Je pense que je le vendagerai tout dans la main, oui.
Ouais.
Oui, parce que le problème, le vin rouge, si on le vendage dans la machine, c'est moins problématique, surtout si les raisins ne sont pas pourris. Déjà, il ne faut pas qu'il soit pourri, même si on le vendange à la même. Mais il faut éviter.
C'est bien. On vient d'apprendre un truc, Pascal. Il ne faut pas que le raisin soit pourri pour faire du pinard, dis donc.
Voilà. Ouais. Il faut des bons raisins. Non, ce que je veux dire, c'est que la machine, il faut bien préparer le raisin. Mais quand on vendange le vin rouge, on le met de suite en cuve, à fermenter. Donc, il n'a pas tendance à s'oxyder. Alors que le vin blanc, on le met d'abord dans le pressoir. On le presse. Si le raisin a été vendangé à la main et qu'il a été mis au frigo, il est à basse température, donc il s'oxyde moins. Quoi. Il ne part pas en fermentation. Voilà.
Et là, pourquoi le mélange ou l'assemblage entre Chardonnay et Viognier?
Ah, mais là, c'était un challenge avec un œnologue de l'époque qui m'a dit bah, « tu devrais essayer ça ». Voilà, on a essayé le Chardonnay.
On a vu le, alors, c'est dommage parce qu'on aurait pu porter une bouteille de Calixte de Guillaume Vérac. De Château Bellaigue, et lui c'est un 100% Viognier.
Alors cette année, voilà, le problème que j'ai eu, comme j'avais une petite production, pour remplir mon pressoir, il m'a fallu toute la vigne. Donc j'ai mélangé Viognier et Chardonnay.
D'accord.
L'année prochaine, je ferai au moins 2-3 pressés, et je me mettrai à part. Et je préfère des vinifications séparées.
Eh ben alors, moi pour avoir goûté les deux, franchement, je trouve que le petit rajout du Chardonnay donne un petit peu plus de, un petit peu plus d'acidité, un petit peu plus de citron, un petit peu plus d'attaque.
Oui, mais parce que sa vigne est plus jeune.
Peut-être.
Le Chardonnay aussi apporte quand même des notes citronnées. Oui.
Ce prélude, mon cher Jean-Claude. Voilà, je peux vous appeler Jean-Claude?
Tout à fait. Tu peux
appelez-moi Jean-Claude.
C'est plutôt une bonne réussite, non? Qu'est-ce que t'en penses?
C'est pas mal.
Hein,
c'est bien.
La suite de Qu'est-ce qu'on déguste, juste après ça. Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. On est plutôt pas mal. Confortablement installé. Confortablement. Bon. C'est spartiate. On est debout. C'est le premier Qu'est-ce qu'on déguste de l'histoire de Qu'est-ce qu'on déguste que l'on fait debout. Mais c'est plutôt une bonne position.
Moi, j'aime bien.
On est chez Jean-Claude Lartigue, au domaine de Guillot. C'est dans les coteaux du Quercy. On est pas mal, pas loin de Montalzin, pas loin de la gare de Beauredon.
Aussi, pas loin de Montpezat de Quercy.
Il y a Nicolas Gallois, Jacques Valette, Pierre Rouquette et Georges Bonfils qui sont en train de jouer un célèbre standard de jazz qui s'appelle Night and Day. Pendant qu'on déguste Prélude, le nouveau vin blanc de Jean-Claude Lartigue. Santé.
Un Viognier Chardonnay, élevé sur lit, bâtonné, comme il faut. Et il est bon.
Qu'est-ce qu'on déguste? Spécial Bleu Trompette. Thank you.
Ouais.
Merci, messieurs. Le quartet After Hours. Joël Mouriot a toujours su s'entourer
de bonnes choses
et de bonnes personnes et de bons partenaires. Lorsqu'il était à la gare de Boredon, à la tête de la gare de Boredon déjà à l'époque, et qu'il avait fait son club de jazz au fin fond de la campagne tarnée-garonnaise, déjà il avait comme partenaire sur des opérations Jean-Claude Lartigue du domaine de Guillot, déjà à l'époque. Mais peut-être pas le Mas de Mauny, pas encore, parce qu'il était peut-être pas encore arrivé, je ne sais pas.
Il n'existait pas. Le Mas de Mauny Port Noir Gascon a démarré en 2009.
Oui, donc voilà.
Donc, on a dû t'avoir d'ailleurs au tout début de Qu'est-ce qu'on déguste, enfin au tout début de ton arrivée au Mas de Mauny.
Début 2009, je pense. Avec les premiers produits.
Ouais.
Benoît Le Verrier, le Port Noir Gascon, le Mas de Mauny, souvent
Ferme-Auberge.
Souvent médaillé pour son boudin.
Boudin à la viande, bien évidemment, aromatisé aux épices de Madagascar, ramené par mes soins chaque année quand je pars en mission.
Il va nous manquer lors de cette émission, ce boudin.
Eh oui, je l'ai oublié. Je suis venu avec de la salaison, je suis parti un peu dans l'urgence.
Cette émission part en autre boudin.
J'en rêvais quand Joël Mouriot m'a dit bah, tu verras, il y aura Benoît Le Verrier, il va venir de toute manière, il y aura du boudin.
Ouais, Rémi, il est presque venu que pour ça.
Bah, moi, ça fait
non. Je salive. Parce que là, il y a du saucisson, il y a de la saucisse sèche.
Tiens, il y aura du boudin.
Oui, bah oui, tiens, il y aura du boudin.
C'est vrai que je suis parti un peu dans l'urgence, puisque à midi, nous avons eu un service assez conséquent, et entre le service, la cuisine, la préparation des commandes, l'alimentation des animaux, l'émission radio, ça faisait
pas mal
de choses.
Comment se passe la nouvelle saison?
Encore un artisan qui se plaint d'avoir du boulot.
Comment se passe la nouvelle saison?
Eh bien, écoute, bien, c'est la première année, donc le premier hiver où nous avons travaillé, puisque après la réhabilitation effectuée en 2014, nous avions des salles très confortables. Donc nous avons pu tout l'hiver...
C'est-à-dire qu'on ne se pelait pas de froid.
On ne se pelait pas de froid, on y mangeait bien et on a pu régaler les gens avec notre fameux cassoulet aux haricots tarbais au Port Noir Gascon.
Mmh.
Et sur demande, et même certaines fois, des poules farcies...
Poule genre de caussade.
Voilà, poule de caussade farcie.
En plus, au Mas de Mauny, on m'a dit que c'était la première ferme auberge à avoir...
Le label Tourisme Handicap.
Ça, c'est
effectivement,
bien.
En commission du 19 mai à Toulouse, on nous a attribué le label Tourisme Handicap sur les 4 handicaps. Donc c'est la première ferme auberge, effectivement, dans la région Midi-Pyrénées à avoir reçu ce label Tourisme Handicap.
Est-ce que c'est important pour est-ce que c'est important pour une ferme auberge d'avoir ce label handicap?
C'est important pour tous les lieux qui reçoivent du public d'être adaptés à pouvoir recevoir les gens qui n'ont pas les mêmes facilités que nous, ou pour se déplacer, ou pour voir, ou pour entendre.
C'est quoi les critères? Justement, tu disais 4 critères.
Il y a 4 handicaps. Il y a le handicap physique, les personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Il y a les handicaps visuels, auditifs et mentaux.
D'accord.
Donc nous avons reçu le label pour les 4 handicaps, c'est-à-dire que tout a été rénové, réhabilité en tenant compte des normes, des critères.
Un cahier des charges assez, je suppose, assez lourd,
assez lourd, suivi de façon très très pertinente par l'agence de développement touristique de Montauban, la personne de Bruno de Borderie, en association avec l'architecte qui était chargé de la réhabilitation des salles de restaurant.
Donc ça c'est fait, un grand bravo. Bah, parce
félicitations,
que c'est rare.
Oui, bravo. Pour aller au Mas de Mauny, il faut aller d'abord, le point que tout le monde connaît, c'est Caylus.
C'est Caylus, après...
On prend direction...
Saint-Projet, Loz.
Saint-Projet.
Voilà, et alors là, on commence à rentrer dans la quatrième dimension. David Vincent, dans ce coin-là, a croisé des extraterrestres.
On commence par se perdre, et puis quand t'as bien faim, tu arrives au Mas de Mauny, et là, on t'accueille les bras ouverts.
C'est fléché maintenant.
Des plateaux de charcuterie.
Maintenant, c'est fléché, et c'est très simple. En fait, le chemin d'accès est entre les villages de Saint-Projet et puis la Garde. Bien que nous soyons sur la commune de Loz, il faut traverser ce village de Saint-Projet et revenir en fait sur ses pas à travers la forêt, puisque entre le village de Loz et la ferme auberge du Mas de Mauny, il y a la falaise et la vallée de la Bonnette qui est infranchissable en voiture.
Mais enfin, quand on a faim...
Eh oui,
mais à un moment, mon gars, c'est un métier de lancer un jingle. Tu vois, lancer un jingle. Qu'est-ce qu'on déguste? On déguste en ce moment de la saucisse sèche du Mas de Mony et du saucisson. Ton saucisson m'a étonné quand je l'ai goûté tout à l'heure.
C'est-à-dire, alors là,
en bien, rassure-toi.
Oui,
en
non,
bien.
Non, mais je m'en doute. Il y avait deux saucissons. Il y avait un saucisson beaucoup d'un diamètre beaucoup plus fin, donc plus sec, je dirais, donc avec des saveurs complètement différentes que celui qui est encore sur la planche, qui est de calibre, enfin de diamètre beaucoup plus conséquent et qui manque un soupçon de séchage. Et on le remarque de suite au niveau des saveurs. Là, on est plus sur une saveur viande quand il est frais, alors que quand il est bien sec, on a vraiment tous les arômes du porc noir et des poivres, notamment le poivre noir de Madagascar.
Et alors, par contre, ta saucisse sèche, elle est...
Ah ben, saucisse sèche, alors...
Elle est sèche.
Elle est à point, quoi.
Voilà, elle est sèche à point. Deux fabrications complètement différentes entre la saucisse sèche et le saucisson. La saucisse sèche, on ne travaille que sel et poivre, puisqu'on est sur des diamètres assez réduits au regard du saucisson. Donc, contrairement au saucisson, on y rajoute un petit peu de sucre pour refavoriser les fermentations lactiques naturelles des viandes et avoir un séchage homogène et éviter à ce qu'il creuse ou qu'il croûte. Donc voilà, et donc un goût complètement différent. Sur la saucisse, on est plus sur un goût viande. Le saucisson, de par le rajout de sucre, on est plus sur un goût floral.
Et je rappelle que ça, c'est fait avec les porcs noirs.
Élevé au Mas de Mony. Voilà, ils sont 170, 180 en permanence, puisque maintenant c'est notre rythme de croisière annuel.
Vous continuez de faire visiter à ceux qui viennent manger à la ferme auberge, comme nous on l'avait fait une fois. J'avais adoré ce dimanche après-midi où on était, je sais pas si c'était un dimanche d'ailleurs, mais je crois que oui. Où on avait déjeuné ensemble et puis après on avait fait la visite guidée de Ça nous fait en même temps une belle balade digestive. Hein, voilà, parce que c'est grand hein, quand même. Hein.
Ouais, mais beaucoup de gens même font la balade eux-mêmes, puisque j'ai malheureusement pas toujours le temps de les accompagner, mais je leur explique les endroits stratégiques à visiter avec les bébés.
On avait été privilégiés, tu veux dire.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qu'on déguste spécial festival Bleu Trompette avec un petit détour du côté de chez. De chez Le Bouton.
Vous voulez un petit bouquin?
Je sais pas, oui, pourquoi pas.
Un petit morceau plutôt.
Allez, ce que tu veux.
On va retrouver Théodore, Paul et Gabriel. C'est un groupe français, hein, contrairement à ce qu'on va entendre, ils chantent en anglais. Ils ont été formés en 2009 et c'est un pur produit des Inrocuptibles, puisqu'ils ont été repérés par les Inrock Lab. Et leur deuxième album vient de sortir. On écoute Théodore, Paul et Gabriel. C'est un bon morceau pop rock classique.
We're Ils sont tout jeunes, on peut le remarquer à leur voix juvénile. Théodore, Paul et Gabriel, donc second album qui vient de sortir.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Spécial Bleu Trompette, on est au domaine de Guillot. Alors le domaine de Guillot, c'est un des nombreux domaines des vins et coteaux du Quercy. On vous en parle souvent. Des vins et coteaux du Quercy parce qu'on les aime bien. Qu'est-ce qu'on déguste ? On est rarement tombé sur des mauvais pinards dans ce coin-là. Et quasiment jamais chez...
Pinard, c'est pas le mot, hein.
C'est pas bien de
des
dire pinard.
Vins, des mauvais vins.
C'est aussi. Pas bien de dire pinard.
Bah, pinard, non.
Pinard, c'est mal ?
Pas très bien.
D'accord, c'est péjoratif, pinard.
Le pinard, ouais. c'est de la vinasse, ça fait du bien.
Par où ce que ça passe ?
Ami Bidas. Serre-nous à boire.
Doucement, doucement.
C'est du pinard.
D'accord, donc on ne dira plus pinard.
Voilà, je préfère que tu parles de vin. Voilà.
Parlons de ce prélude. Et alors, et de celui-ci là
Alors ça, c'est un peu confidentiel. Il n'y en a pas beaucoup différent. De celui-là. Ouais. Disons que on a essayé justement de.
Pascal, goûte ça. 300 bouteilles seulement.
On a fait une micro que
j'en reprends avant de te filer parce que
non mais pas trop, il y a que 300 bouteilles donc je t'en ai ouvert qu'une aujourd'hui.
Il en reste 299 pour la soirée quand même.
Tu en mets très peu hein.
Un nez à coudre.
On l'a vinifié et levé en barrique pendant 6 mois avec un bâtonnage. C'est-à-dire on remettait régulièrement les lits en suspension. Ça ce qui a donné du gras et de la rondeur au vin.
Donc c'était des barriques comment ? Des barriques neuves, des barriques.
C'est des barriques neuves spécialement élaborées pour faire ce vin. D'ailleurs, je vais faire un peu de publicité pour une entreprise locale.
Ah oui ?
Qui s'appelle la Tonnellerie Orion à Kamsas, je crois.
Ils sont à Kamsas.
Oui, oui, entre Montauban et Toulouse. C'est une entreprise qui me fournit des tonneaux maintenant et qui m'a proposé un tonneau spécialement étudié pour vinifier un vin blanc. Donc c'est un tonneau en chêne qui a été trempé, en fait, je sais pas trop le principe. Bon, il a trempé dans de l'eau bouillante pour enlever les mauvais tanins. Il m'a expliqué qu'il me le préparait pour faire un bon vin blanc. Voilà.
Spécial voilà, vin blanc.
Alors, moi, je suis pas spécialiste celui qu'on goûte de tonneau,
là,
voilà.
Celui qu'on goûte là, il a pas encore alors, trop été dans la barrique. Il a pas trop été dans la barrique encore celui-là.
Disons que la barrique a été. Si, il a été vinifié, c'est-à-dire il a fermenté en barrique. La fermentation alcoolique
mais
a eu
un mal. Ça prend pas 6 mois, ça. Ça prend combien de temps ? Ça prend pas 6 mois. Ça prend combien de temps ?
La fermentation prend un mois. Mais après, on a fait l'élevage dans la barrique. On l'a laissé dans la barrique.
D'accord. Il a passé combien ?
On l'a mis en bouteille. Mais disons qu'on l'a dégusté régulièrement avec mon œnologue. On l'a dégusté tous les mois et on voyait l'évolution. Et quand on a estimé que c'était bien, on l'a sorti de la barrique et on l'a mis en bouteille.
C'est-à-dire combien de temps ?
Tous les mois, on n'en existait pas trop, sinon il irait près de la barrique.
Tu crois qu'il est bon ? Ouais, je crois qu'on peut le sortir. Là.
Non, mais on dégustait très peu.
Combien de temps donc ? J'ai pas compris.
Mais on l'a mis en bouteille au mois de mai, quoi. Donc
il est resté 6 mois, octobre, novembre, décembre,
6 mois en barrique. D'accord. Élevage, bâtonnage en barrique.
Ça, tu l'as déjà vu, toi ? Reprends-en un peu. Oui, ça marche.
Ouais, c'est vrai que
Marche. Tu sais, vous faites de la radio. Ah
c'est
la radio. Ouvert,
c'est du live. Il a été mis en bouteille au mois de mai, donc là, on est quand même au mois de juin. C'est un vin qu'il faut quand même attendre un certain temps avant de le consommer. Là,
moi, j'aime bien là comme ça.
Ouais, mais bon, il est encore pas remis de ses émotions. Il a été mis en bouteille, tout ça. Il a été un peu
violenté,
un peu déplacé, voilà. Ah ouais. Ça sera mieux dans quelques mois, voilà. C'est un vin qu'on va bien boire cet automne et cet hiver, voilà.
Moi, j'aime bien comme ça. Ouais, moi aussi, qu'est-ce que t'en penses ?
Ouais, c'est roots, c'est...
Tu l'aimeras encore plus au mois de...
Ça me fait penser...
Parce que les tanins vont s'assagir dans quelques mois, il va devenir un peu
plus... Un peu plus rond, un peu plus fédérateur, quoi. Moi, j'aime bien justement ce côté-là.
C'est un bon produit, il n'y a pas de problème.
Oui.
Un produit estampillé, domaine de Guillot.
Alors, le premier qu'on a goûté tout à l'heure... il est aux alentours de 9 euros, voilà. C'est ça, le fameux prélude. Et celui-ci sortira quand ? Ben celui-ci, celui-là, il y a 300 bouteilles, qu'est-ce que tu veux faire ?
Ouais, mais c'était pour faire un essai, donc l'année prochaine, comme l'essai concluant, on en fera beaucoup plus.
Rien, ça tu le donnes juste en cadeau.
Voilà, non mais on n'a pas encore défini un prix là.
Bon, alors,
on réfléchit là.
Pour 3 bouteilles de prélude achetées, vous avez 2 bouteilles de barrique.
Ah, là je passe pas.
En tout cas, moi j'aime beaucoup aussi celui-là. Ah.
Qu'est-ce qu'on déguste, spécial bleu trompette? Si Georges Bonfils faisait son travail correctement, il serait là pour nous proposer un morceau de jazz.
Mais il arrive à fond les manettes.
Il est là, il est présent. Dans le, à Montpessa,
comme il fait partie aussi de l'organisation de bleu trompette, il est au four et au moulin.
J'étais avec mon président en train de parler de la soirée de ce soir, puisqu'on organise une soirée musicale et on fait un vin qui s'appellera le rosé de Mémé. Qui sera vendu au profit de l'association Bleu Trompette.
Alors, le rosé de Mémé qu'on va goûter après.
Alors oui.
Alors, j'ai choisi là pour écouter Ricard Gilles, le trompettiste qui sera là le samedi 25 juillet à Montpessac, où vous viendrez écouter un très beau morceau. C'est une composition de Duke Ellington qui a été enregistrée par la Locomotora Negra et qui s'appelle The Shepherd.
Il en reste un peu pour le rouge.
La pureté du son du trompettiste Ricard Gilles, trompettiste catalan qui sera bleu trompette le 26 juillet. Venez le voir, ça vaut le coup. Surtout qu'il y aura un invité surprise, c'est Alain Boucher, le trompettiste qui était là l'an dernier. Ils se sont rencontrés lors d'un festival de jazz de Montauban. Pour les 20 ans, ils ont joué ensemble sur la même scène. Ce sera les retrouvailles.
Qu'est-ce qu'on déguste, spécial festival bleu trompette, depuis le domaine Guillot, chez Jean-Claude Lartigue. J'aurais bien aimé discuter avec un ou deux bénévoles de l'association Bleu Trompette, juste parce que c'est des habitants de Montpessac, de Montalza, enfin du coin, quoi. Et que ce festival, il est dédié à Montpessac de Quercy. Donc ça m'aurait fait plaisir, juste comme ça, de pouvoir discuter de la vie qui passe à Montpessac, des commerces qui ferment, de certains qui résistent, des fêtes qui s'y installent, d'un festival qui s'y met. On a des artistes qui vivent. Bonjour.
Bonjour.
Ça y est, j'ai réussi à piéger quelqu'un.
Comment votre
Bernard Rogéro.
Bonjour Bernard.
Oui, bonjour.
Comment ça va?
Très bien, impeccable.
Merci d'être là. Habitant de Montpezat-Quercy.
Entre autres, oui.
Ouais, entre. Ah ben d'accord, vous habitez partout.
Pas que, mais...
Vous avez une caravane, faites genre gitan. Oui,
voilà, je suis mobile, c'est moderne maintenant.
D'accord. Qu'est-ce qui a fait que vous avez rejoint l'équipe de Bleu Trompette?
J'aime bien les animations, il y a toujours des animations sur Montpezat, j'aime bien Montpezat aussi, donc c'est l'idéal, c'est convivial, la preuve, ça se voit ici.
Bon, et la vie à Montpezat, ça fait longtemps que vous y êtes ou pas? Ah, avec oui, votre accent, vous êtes pas du coin.
Je suis né, oui, puisqu'on est né le même jour que Bernard, donc c'est mon jumeau qui s'appelle Bernard aussi.
Bernard Buissou, c'est
oui.
D'accord.
Et non, mais moi j'ai fait mes études ailleurs, j'ai travaillé ailleurs, mais ah oui, j'ai toujours gardé un pied à Montpezat.
On revient toujours à Montpezat. On n'a jamais quitté Montpezat.
Voilà, on ne quitte pas Montpezat.
C'est un village qui vit?
Et qui vit, bah, il pourrait vivre un peu plus, mais bon, il y a
des animations.
Survit. Un village qui survit, mais et qui survit bien grâce justement à des animations comme Bleu Trompette.
Ouais, il faudrait qu'il y en ait d'autres. Bon, il y a eu le relais pour la vie il n'y a pas longtemps et... Bleu Trompette amène une bonne animation, oui.
Mais vous... Tu vois, moi, mon grand-père était de Montpezat et je fais partie de la sauce Bleu Trompette.
Ah oui,
on revient à Montpezat.
On revient.
Tu devrais jamais quitter Montpezat.
Merci. Je voulais un petit témoignage comme ça en passant. Merci beaucoup. Dans la prochaine demi-heure de Qu'est-ce qu'on déguste, on va déguster justement du rouge. Alors on va en déguster plusieurs. On va déguster celui, évidemment, de l'Artigue. De l'Artigue. Je peux t'appeler l'Artigue, Jean-Claude?
Ouais, si tu veux, ouais, tu m'appelles comme tu veux.
domaine de l'Artigue.
Non, domaine de l'Artigue, non.
Et on va déguster aussi celui de Bernard Buissou, parce qu'il n'y a pas de raison. Parce que Bernard Buissou est aussi partenaire. Alors on le connaît bien à Qu'est-ce qu'on déguste et à CFM. Bernard Buissou, c'est le domaine de la Fage. Vin en bio. Je sais plus s'il est toujours en biodynamie. Oui, il est toujours en biodynamie. Et donc, ben voilà. Donc ça va se passer dans la prochaine demi-heure. On s'intéressera à une BD qui s'appelle À boire et à manger. Avec.
Oui, on pourrait croire qu'elle a été faite spécialement pour l'émission. Ça s'appelle À boire et à manger de Guillaume Long chez Gallimard.
Voilà. Et puis on continuera comme ça de déguster. Il reste un tout petit bout de saucisse. Vraiment.
Rouge, ouais. C'est pour le vin rouge.
C'est pour le vin rouge. Plus grand chose. Hein.
Chauchiche et chauchichon.
On en a mangé beaucoup.
On a laissé le plateau juste à côté de Christophe, Gaël et Pascal, et ça, c'est pas bien.
Ouais, mais c'est tellement bon, et puis c'est pour
Pascal
vous aussi.
Pascal est beaucoup plus loin.
Oui, mais t'as le bras long.
Ouais, mais quand même. Je me déplace rapidement.
La suite de Qu'est-ce qu'on déguste dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. C'est toujours le Quatuor After Hours qui nous fait plaisir là pour démarrer cette dernière demi-heure de Qu'est-ce qu'on déguste. On va déguster du rouge maintenant. On va faire non pas un battle, mais on va d'abord déguster du domaine de Guillot, de Jean-Claude Lartigue qui nous accueille aujourd'hui. Et puis on dégustera aussi du vin de Bernard Buissou. Du domaine de la Fage. On continuera nos conversations avec Joël Moriot, avec Bernard Perron. On parlera BD avec Gaël. Qu'est-ce que tu nous as prévu de plus, Pascal?
Peut-être une recette, si on a un petit peu de temps.
Si on a un peu de temps, une recette, ce serait bien.
Oui.
Et jusque-là, ben, on n'a qu'à trinquer, tiens. Thank you.
Nicolas Gallois, Jacques Valette, Pierre Rouquette, Georges Bonfils.
Le quartet After Hours.
Ben oui, mais c'est difficile d'avoir un...
C'est pas un quatuor, c'est un quartet.
De la saucisse, de l'humas de Moni dans la bouche et d'arriver à faire cette émission.
On va parler.
Alors, on va déguster maintenant, si vous le voulez bien,
un domaine
de Guillot. C'est quoi? C'est le tradition
Tradition, oui, c'est un vin qui est en cuve, qui a été élevé en cuve.
Voilà, c'est tout. C'est tout ce que tu as à dire.
Il n'y a pas de bois, il n'y a pas de...
Non, c'est un vin.
C'est quoi comme cépage?
Médaille d'or 2014, c'est un 2012 qu'on est en train de boire. Hein.
Donc le 2012, c'est un vin qui a été récolté en 2012, comme son nom l'indique.
Voilà, ça.
Tu sais, vigneron, c'est un boulot simple. Voilà, tu veux faire du 2012, tu récoltes en 2012.
Et alors, c'est du vin, donc à faire avec du raisin, si tu veux.
Voilà, du raisin et de cabernet.
En 2012.
Voilà, je vais parler maintenant.
Voilà. Alors, il y a quoi? C'est quoi comme
la dégustation pas, porte ses fruits.
Voilà, on va. C'est du cabernet franc, du merlot et du tanat.
Donc, un assemblage.
Un assemblage typique des coteaux du Quercy.
Voilà, c'est donc ça... dans le cahier des charges des coteaux du Quercy.
Le coteau du Quercy, c'est 5 cépages. Le cabernet, le merlot, le tanat, le malbec, qui s'appelle aussi le côte.
Le côte.
Et le gamay. Le gamay, c'est pas avec ça qu'on fait les meilleurs rouges. Ce sera plutôt pour le rosé. Mais dans le coteau du Quercy, ce sera 40 à 60% de cabernet et 10 à 20% des autres cépages.
Après, on mélange comme on veut.
On a le choix. On ne le mélange pas, on assemble.
Oui, enfin bon, c'est pour nos auditeurs. Voilà, on assemble. Voilà, on assemble. On mélange.
Voilà, on aime bien être très précis sur les termes techniques.
Voilà.
Voilà, on assemble du cabernet, du merlot et du tanat et du malbec.
La caractéristique de domaine du Guillot.
Alors,
c'est quoi
de celui-ci.
Oui,
parce
de
que
celui-là.
Ce qui est intéressant. C'est que on est en train de déguster le domaine de Guillot là, qui est 2012. Un vin des coteaux du Quercy, et juste après le 2012, et juste après on va déguster le tradition domaine de Lafage. Donc on est sur deux traditions, deux 2012, et deux dans la OP, donc avec le même cahier des charges.
Et qui et sont à 10 kilomètres de distance.
Un en lutte raisonnée, l'autre en biodynamie.
Voilà.
Voilà.
Alors, c'est quoi, Jean-Claude, la typicité du domaine de Guillot? En deux mots.
Ah, c'est quand même des vins de tradition. On travaille traditionnellement. On n'est pas en culture biodynamie, mais on essaie...
Ton terroir.
On essaie quand même de respecter la nature. Le terroir, c'est argilo-calcaire. Je pense que le domaine de Lafage, un peu plus calcaire que moi, peut-être.
Mais... À 10 bornes près, vous avez plus de calcaire. Bonjour, Bernard Bouissou. Oui, merci d'être
bonsoir
là.
Bonsoir à tous. Sur certaines parcelles, effectivement, moi je suis dans la côte du Quercy blanc, c'est donc le sous-sol est très blanc et très calcaire. Mais bon, voilà, c'est à peu près j'ai autant d'argile qu'ici, des fois ça colle aux bottes, mais
nous aussi.
Bon, ça peut changer, effectivement, le Quercy peut changer, même par rapport à mon voisin d'en face, j'ai pas tout à fait les mêmes sous-sols. Quoi.
Ouais.
Donc c'est les vins des coteaux du Quercy, c'est d'abord des vins de terroir.
C'est des vins terroirs, et puis le coteau du Quercy, c'est une région qui est très vaste. Personnellement, j'ai une quarantaine d'hectares, mais je ne pourrais pas faire de la vigne partout. J'ai des coteaux bien exposés, notamment là où je produis le vin que vous goûtez là. C'est des coteaux exposés plein sud, argilo-calcaire. Après, on a des bas-fonds qui sont moins intéressants. Déjà, c'est gélif. On ne peut pas faire de la bonne qualité, on ne peut pas planter partout en fait. C'est le problème qu'on a dans le coteau du Quercy. Si on voudrait planter une grosse quantité de vignes, ça serait difficile.
On pourrait pas.
Alors, je reviens au cépage. Le cépage, donc, de celui qu'on est en train de déguster là, c'est
cabernet,
l'assemblage, ouais.
Merlot, tanat. Voilà.
Et celui qu'on va déguster après, Bernard Bouissou, l'assemblage, c'est quoi?
Alors, c'est cabernet à 50%, merlot et malbec, 25% chacun. Il n'y a pas de tanat dans le 2012.
Donc, c'est cabernet, merlot, si j'ai bien compris. Et un autre cépage pour être dans l'AOP, c'est ça?
Coteau du Quercy.
L'AOP, Coteau du Quercy, on a droit aux 5 cépages. On a le choix.
Il ne doit pas y en avoir un qui prédit.
Si, le cépage prédominant est le Cabernet Franc.
D'accord.
40 à 60.
Voilà. Donc forcément, après, il en faut deux de plus. Quoi.
Parmi les 5 qui sont...
Parmi les 5.
Donc, le vigneron fait sa sauce. Est-ce que le client est content?
je pense qu'il est content parce qu'il revient, n'est-ce pas Bernard?
Oui, mais enfin, on fait notre sauce avec quand même une recette assez rigide quand même.
Et oui, oui, parce qu'il y a les règles de l'AOC, de l'AOP, voilà. Coteau du Quercy.
Voilà, voilà, qui sont donc, comme on l'a dit, 40 à 60% de cabernet, et après, maximum 25% des cépages complémentaires.
Comment est vu le bio aujourd'hui dans l'appellation Coteau du Quercy?
Comment, pardon?
Comment est vu le bio? Parce que tu as été le premier. Est-ce que tu es toujours le seul?
Et non, 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 on est quatre.
Donc on tu est, fais école?
On est quatre. Oui, enfin,
à force de récolter des médailles d'or, les autres ont dit comment il fait?
Et je sais pas. Mais enfin, effectivement, on est quatre. Et j'exagère un peu parce qu'on est quatre vignerons indépendants. Mais il y a aussi des adhérents de la cave coopérative qui sont en bio maintenant. Et la cave coopérative des vignerons a fait sa première cuvée bio cette année.
Donc
donc je suis très content.
Le bio sur les coteaux du Quercy, ça mène quoi? On a quoi qualitativement?
On respecte les sols, on respecte les saisons. Voilà, encore plus que les autres, mais et du coup ça amène des différences. Chaque année apporte sa spécificité. Et puis bon, c'est difficile. C'est dans la bouche après qu'on le dit.
Voilà que ça se fait.
Moi, je trouve que voilà, on a tendance à dire, mais c'est difficile de le dire dans une émission comme ça. Mais ça, il se digère bien. Voilà. Donc
se digère mieux, pas de mal à la tête.
Voilà, par exemple. Mais ceci dit, il faut pas en abuser non plus parce que je suis pas comme certains qui ne mettent pas de sulfite. Moi, j'en emploie un. J'en emploie à des doses réduites, mais j'en emploie.
J'ai discuté il n'y a pas très très longtemps avec quelqu'un qui me disait que finalement, on avait tendance à traiter davantage quand on était en bio que quand on était en lutte raisonnée. Parce que en lutte raisonnée, on s'intéressait, on allait regarder, on allait faire.
Mais on avait beaucoup plus de systémique que voilà. Juste de poudrage qui, à la première pluie, se barre.
C'est le problème de l'essivage. Mais je crois que ce n'était pas en termes de quantité, c'était en termes de temps. De plus souvent, de fréquence, voilà. Parce que justement, comme on ne peut pas attaquer méchamment, il faut y aller plus souvent, mais avec des produits plus raisonnables quand même. Donc,
alors, Jean-Claude, non, il ne veut pas parler. Bernard.
En bio, on est obligé d'employer, par exemple, contre le mildiou du cuivre, qui est un préventif. Donc, effectivement, l'une en est pluvieuse, comme l'an dernier, on a été obligé de traiter plus souvent, puisque préventif après chaque grosse pluie, c'était lessivé.
Mais alors, parce que bio ou pas bio, on s'en fout, à un moment, c'est pas forcément super bon pour la santé non plus, tu vois ce que je veux dire quand même, quand on traite beaucoup.
Oui,
et même pour le sol lui-même. C'est-à-dire que le sol lui-même, à force de mettre du sulfate de cuivre ou je ne sais quoi, parce que moi j'y connais rien, hein, on est bien d'accord. Mais est-ce que ça bousille pas autant le sol que le Monsanto que notre ministre de l'économie voudrait mettre dans le Nutella?
Je tiens à préciser qu'elle a fait ça.
On n'est pas sur les mêmes produits, parce que le Roundup qui faisait beaucoup de publicité sur le fait qu'il était biodégradable à tel point que les consommateurs pensaient qu'il était bio, ben non, la preuve est qu'aujourd'hui, effectivement, il est mis à l'index et que c'est un produit très dangereux. Voilà.
Mais donc, le sulfate de cuivre
n'est pas dangereux
si on
pour
en
l'homme.
Abuse. Non, mais si on en abuse sur les sols, je veux
et
dire.
Alors sur les sols, il paraît que les vers de terre, ils aiment pas avoir trop de cuivre. Mais je pense que les dangers, ce sont dans le Midi, là où il y a des vignes depuis des siècles et des siècles sur les mêmes terrains. Moi, je trouve que l'herbe, elle pousse bien dans ma vigne, un peu trop à certains moments. Et que donc, mon sol, il est pas mort, il est pas tué.
Oui, Pascal.
Non, je voulais demander à Jean-Claude Lartigue s'il pensait passer en bio un de ces quatre ou pas. Est-ce que ça fait partie de tes préoccupations?
C'est vrai que pas mal de clients nous parlent du bio. Le bio, ça nous interpelle. On est quand même là pour préserver la nature. Les désherbants, c'est sûr, c'est pas des produits anodins, quoi. Il faut les employer en petite quantité ou pas du tout. Moi, je sais que j'ai investi dans une machine pour biner la vigne. Je peux pas toujours m'en servir parce qu'il pleut trop ou alors la terre est trop sèche. C'est pas facile. L'année prochaine, je pense investir dans une super machine pour pouvoir désherber parce que mécaniquement, on travaille déjà les vignes mécaniquement. On n'enherbe pas, ou très peu, un rang sur deux. Cette année d'ailleurs, j'ai semé des féveroles dans mes rangs de vignes pour apporter de l'azote et de la matière organique. C'est une
belle démarche.
Une technique qui qui est très utilisé chez les bio et ça a donné de très bons résultats. La vigne pousse très bien. Après, il y a plusieurs problèmes. La vigne, l'herbe qui concurrence la vigne sous les pieds, si on met du désherbant qui sont, comme disait Bernard, du Roundup, enfin le Roundup c'est une marque, hein, du glyphosate, qui sont très dangereux. Bon, il vaudra mieux éviter, c'est sûr, mais... Après, il faut pouvoir faire le travail au bon moment.
Pas perdre la récolte.
C'est assez difficile. Mais c'est vrai que nous faisons la lutte intérêt. Parfois, souvent d'ailleurs, nous utilisons des produits naturels, le soufre, le cuivre. Voilà. Le problème, c'est qu'à bio, après, on est quand même
tenu
de respecter un cahier des charges. Voilà.
Santé. Alors moi j'ai basculé et santé. Je pense que je vous ai servi aussi. On est maintenant sur la même année. On est toujours dans les vins des Coteaux du Quercy, mais on est sur le domaine de Lafage. Ce vin de Bernard Bouissou. Enfin, Bernard Bouissou ou pas? Parce que si 2012 c'est encore le tien, Bernard. Parce que après normalement il est censé y avoir la relève. Mais si j'ai bien compris, parce que la dernière fois qu'on a discuté c'était l'année dernière, un an à peu près jour pour jour, quand on faisait la promotion encore du festival Bleu Trompette. Oui. Tu nous avais dit j'ai trouvé deux jeunes qui vont reprendre, à qui je vais pouvoir transmettre la vigne. Et puis finalement il y en a un des deux qui est parti. Ça se fait pas comme tu voudrais. Il va falloir que tu continues de bosser un peu, quoi.
Un petit peu. Mais bon, c'est vrai que depuis le mois de mai l'an dernier, donc j'avais deux jeunes associés. Il y en a un qui a renoncé au début avril. Bon, de toute façon c'était une année d'essai aussi. Alors il fallait mieux que ça arrive maintenant que non pas après, quand il allait être très engagé. Voilà, donc il y a eu une petite période de flottement où son collègue s'est senti un peu abandonné. Donc, ça y est, il continue. Et bon, moi, je vais l'aider pendant deux ans, quoi.
Alors, si on en parle un peu de ce... Est-ce qu'on pourrait parler de différence de goût? Qu'est-ce qui est plus prononcé, finalement, chez Bernard Bouissou, chez le domaine Lafage? C'est quoi? C'est le cassis? Il y a plus d'arômes rouges, de fruits rouges, que chez Jean-Claude Lartigue, chez le domaine Guillot? Qu'est-ce qu'on peut dire?
Chez Bernard, je trouve beaucoup de cassis, là, non? Qu'est-ce que ça me passe?
Oui, et alors, c'est vrai que le 2012 était un peu différent des autres millésimes, un peu plus aromatique, un peu plus concentré, effectivement, en arômes. C'était pas... tout à fait mon habitude.
Il n'est pas tannique, celui-ci, là, le 2012, comme il peut l'être.
Un petit peu moins, c'est un petit peu moins. Mais les gens trouvent qu'il est encore un petit peu jeune, un petit peu vert quand même, et que donc, il faudrait patienter un petit peu. En général, c'est vrai que les vins du domaine sont bons quand ils ont déjà fêté leurs 3 ans. Là, ils se préparent à fêter ses 3 ans, ils se referment un petit peu. Mais bon, je crois qu'il est plein de... Promesse.
Il se referme. Un vin se referme. Oui. Un vin bio, comme ça se referme, ouais. Pascal.
C'est comme une fleur, c'est vivant, un vin.
Bio ou pas bio,
c'est vivant.
Un vin évolue. Un vin évolue, sa vie.
À des moments, il se referme.
Il y a des moments, il est bon, et des moments, il est moins bon. On l'oublie dans la cave quelques mois. Et...
un coup de flash détente et il bouge plus jamais.
Ah, voilà. Ben là, tu l'as tué direct, là.
Bon. Le vin est un produit vivant.
Voilà. C'est vrai.
Qu'est-ce qu'on déguste avec ça? On est en train de manger de la saucisse de porc noir gascon du Mas de Monille. Merci beaucoup Benoît Le Verrier. On écoutera peut-être encore un petit morceau de jazz qui fait partie un peu de la programmation du Festival Bleu Trompette. On goûtera tout à l'heure le dernier né du domaine de Guillot qui a été le coup de cœur du guide Hachette.
Trois étoiles coup de cœur.
Quand même. Et alors, je voudrais aussi qu'on parle, mais je sais pas si on aura le temps de tout faire, mais tu vois, Pascal, je te présente cette bouteille. Les auditeurs, il faut qu'ils imaginent. Hein. Je suis en train de montrer l'étiquette. Ouais. Je suis en train de montrer l'étiquette à Pascal Olivier. Et maintenant, je tourne cette bouteille et je monte ce qu'on va pouvoir appeler la contre-étiquette. D'accord, ouais. C'est derrière où il y a marqué, d'habitude, vous pouvez le manger avec du poisson, du caviar ou un bon truc. Et en fait, cette contre-étiquette que je te montre, c'est l'étiquette. Et la contre-étiquette,
c'est ça.
C'est cette face A, en fait, qui devient la face A.
C'est du contre-concept.
C'est du contre-concept. Alors pourquoi? Explication, de Jean-Claude, de Jean-Luc, de
Jean-Pierre, Jean-Paul.
Jean-Paul II.
Rappelle-moi ton prénom, Jean-Claude.
Merci non, Raymond.
En fait, oui. Sur une étiquette, il y a beaucoup de mentions obligatoires qui chargent énormément l'étiquette. Donc j'ai choisi de...
Il faut marquer nom aux femmes enceintes, abat le 13 de Dressinck, abat les sulfites.
Beaucoup de mentions obligatoires. Donc, on a préféré communiquer sur un nom avec une étiquette simple et épurée. Donc pour le blanc, c'est Prélude. Pour le rouge, en fût de chêne, c'est Plénitude. Le rouge tradition a encore une étiquette traditionnelle, normale, avec toutes les mentions obligatoires et...
Les fraudes, ils disent rien.
Ah non, mais les fraudes ne disent rien.
Parce qu'ils disent pas la contre-étiquette doit être plus petite ou plus grande que l'étiquette. Ou...
Les mentions obligatoires sont sur l'étiquette, pardon.
Non, mais l'étiquette est plus petite que la contre-étiquette. Est-ce que c'est normal ? Non, est-ce que les fraudes ne diront pas ? Oui, non, mais attendez, monsieur, arrêtez de vous foutre de moi. Ça, c'est une grande étiquette, donc c'est la face A. Autrement dit, c'est l'étiquette. Et la petite qui est derrière... C'est la contre-étiquette.
Oui, il n'est pas tout seul à faire ça, je crois. J'ai déjà vu ça.
Ce qui compte, c'est la grosseur de la police des caractères. Donc, on est dans les clous, là.
Mais vrai, c'est comme ça.
Oui, oui, puisque moi, l'imprimeur, lui, c'est un professionnel de l'étiquette. C'est le même qui fait les étiquettes à M. Bouissou. Donc, il n'y a pas de problème.
Et quand je regarde le domaine de la fage, il y a tout sur l'étiquette.
Oui, comme mon étiquette tradition.
Voilà. Et sur la contre-étiquette, il n'y a pas grand-chose, quoi.
Voilà.
D'accord.
Bon, après, le principal, c'est que ce sont des bons vins tous les deux. Je crois que c'est ça le principal.
Des bons vins. Attention, le 2011 Plénitude du domaine de Guillot, ça tartine quand même à 15,5 degrés.
Ah, mais c'est celui.
Il fallait qu'on... pas le dire.
C'est
mais
celui qu'on va goûter après.
C'est un vrai gasoil.
Bah, le problème, c'est qu'en 2011, Bernard, il peut s'en rappeler. Et...
Ça a chauffé.
Il faisait très chaud. Et c'est un vin qui a naturellement eu ce degré d'alcool.
Est-ce que tu penses que pour les années à venir, ça va être la même chose ?
J'en ai bien peur parce que le réchauffement climatique, je pense, c'est quand même pas... C'est pas de la rigolade, quoi. Hein.
Donc, on est à 15,5 degrés en 2011. Est-ce qu'en 2020, on va être à 19 ?
Non, mais bon, ça évolue quand même petit à petit. 2014, 2013, c'était des degrés plus bas. Mais les vendanges sont de plus en plus précoces. Il fait chaud l'été. Donc je pense qu'on va quand même on tend à une augmentation moyenne du degré. Peut-être que la vigne va se déplacer. On aura de la vigne en Norvège bientôt.
Bien sûr. Est-ce que le bio, est-ce que la culture en bio permet d'avoir des rendements plus maîtrisés, donc des degrés d'alcool plus maîtrisés aussi ?
Non. On est victimes tous, d'un choix de cépage. Améliorateurs d'il y a 50 ans qui ont, à l'époque c'était important qu'il y ait du sucre avec le climat qu'il faisait il y a 50 ans le climat a changé donc maintenant on a des, si on veut ramasser à maturité et les bio on essaye bien sûr de ramasser à maturité, on a des gros degrés et c'est un handicap quand même à un moment donné.
Et si on a des vins à 16-17 degrés, est-ce que ça va poser des problèmes ?
Ah bah sûrement. Ah
bah, du Moscatel.
Oui,
ça fait 18 ans, hein, le Moscatel. Oui,
sûrement. On va lire une petite BD, Rémi ?
Allez, une petite BD, le temps que...
À boire et à manger, c'est
le temps que, justement, Jean-Claude nous serve sa dernière cuve.
Bah, c'est parti, alors. Donc, on a surtout parlé de boire depuis tout à l'heure, un peu manger grâce à la charcuterie du Mad Money. Mais là, on va parler d'à boire et à manger de Guillaume Long aux éditions Gallimard. Alors, on va apprendre avec cette BD quels sont les ustensiles indispensables à tout cuisinier qui se respecte, où trouver l'ail des ours, que faire de nos amis les courges, et je ne parle pas uniquement des gens autour de cette table aujourd'hui, où aller manger si vous êtes à Venise et préparer un bon apéro et un risotto aux asperges et les crêpes, comment cuisiner un lapin à la bière, réaliser des maquis de poireaux ou de parfaits cannelloni, comment commander un café à Paris, comment faire du poireau, le héros de l'apéro, quel mystère recèle la fabrication du cidre normand, ou déguster un homard en toute simplicité, comment poussent les noix de cajou. Peut-on sauver la quenelle des préjugés universels ? Comment préparer le vrai gratin dauphinois et le taboulé libanais ? Alors, autour de ces questions existentielles, pour tout gastronome qui se respecte, Guillaume Long poursuit son exploration de la cuisine de tous les jours avec un humour omniprésent. Pour lui, la cuisine est un art de vivre, un peu comme l'ensemble de l'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste, et les réponses à ces questions s'écrivent en bande dessinée. Il recompose pour le livre les notes, recettes, anecdotes, portraits, imaginés pour son blog gastronomique, publié avec l'aide de Du Monde. Alors, on retrouve d'ailleurs un passage avec nos confrères de France Inter, de on va déguster, qui ne sont pas les derniers non plus, on pourra le constater, pour lever le coude, avec modération comme nous évidemment. Alors moi j'ai adoré le ton employé par Guillaume Long pour cette BD, un peu plus abordable au niveau de la réalisation des recettes que ce que l'on voit à la télé habituellement dans toutes les émissions en ce moment. Donc à la portée d'un peu plus de gens, il utilise par exemple le micro-ondes, il parle d'un vin bio que j'aurais aimé qu'on en parle, mais on n'aura peut-être pas le temps, un vin bio de chez Auchan. Alors beaucoup d'humour en général et la présence du personnage de Pepperoni et de ses conseils avisés qui est un vrai régal, comme l'ensemble de ses trois BD. Selon Guillaume Long, cuisiner c'est tout bête, comme de prendre une tomate, la couper et l'arroser d'huile d'olive, la saler et la poivrer en déchirant dessus une ou deux feuilles de basilic. On obtient une des meilleures salades du monde. Pour qui aime la tomate en tout cas. Alors voilà, ça s'appelle À boire et à manger, Guillaume Long, 3 volumes aux éditions Gallimard.
Et voilà, on arrive pas loin du bout de cette émission spéciale Bleu Trompette. Donc là, on est sur le fameux Plénitude, hein, le nouveau, qui a été mis en fût en 2011, c'est ça ?
Voilà, récolte 2011, mis en fût pendant un an. 50% des fûts étaient neufs.
Et on le sent.
Voilà, c'est du vin qui a du corps.
Et donc, s'il a autant de degrés aussi, c'est parce que tu as fait une sélection. Tu as égrappé, ou comment on dit quand c'est comme ça.
Disons, oui, on a fait une vendange en verre au mois de juillet. On a, surtout dans le tanat, c'est un cépage qui produit énormément. Donc, on a levé 30 à 40% des raisins pour garder que un raisin par Sarman, ce qui fait un rendement de 45 hectares. Donc, ce qui explique aussi la concentration et du coup, ça a monté un peu l'alcool, quoi.
D'accord.
Voilà.
Et ça, c'est ta fierté du moment, hein.
Voilà, c'est content, quoi. C'est quand même pas mal, quoi. On est assez fiers. Là. Et c'est vous qui allez me le dire si vous aimez ça aussi.
Alors, effectivement, c'est puissant.
C'est le domaine de Guillot.
C'est puissant.
Que l'on aime. Donc un vin très charpenté. Alors on va boire ça sur des daubes, on va boire ça sur.
Moi j'allais
des...
te dire même sur du chocolat. On peut y aller sur du chocolat.
Un gâteau au chocolat. Presque. Un magret de canard aux framboises, par exemple.
Un magret de canard aux framboises. Mais tu vas nous inviter à manger, toi, tu le sais.
Mais sont où les framboises?
En tout cas, merci. Merci beaucoup, Jean-Claude Lartigue, de nous avoir accueillis ici. Merci, Bernard Bouissou, domaine de la Fage, d'être aussi partenaire du festival Bleu Trompette, puisque c'était un spécial Bleu Trompette aujourd'hui. Merci à... comment il s'appelle ? Non, le président.
Joël
Mouriot. Georges, tu peux commencer à jouer avec
merci à
ton quartet.
Merci à Benoît Leverrier, Mas de Bonny. On ira manger un cassoulet, un de ces quatre.
Ah si oui. Non, il n'y a plus de cassoulet en ce moment. Qu'est-ce qu'on mange au Mas de Bonny en ce moment?
Alors, en ce moment, on est sur les viandes grillées, sur les cuissons basse température, retravaillées sur plancha avec les épices de Madagascar, les kombava, les miels, les sauces soja. On est sur des bonnes choses.
On va y aller.
Très bonnes choses.
Durant l'été, on va y aller.
Merci. Et
le cassoulet peut être fait sur demande.
Hein. On peut aussi.
Il suffit de le commander et on a tous les ingrédients pour.
Merci donc à Benoît Leverrier du Mas de Mony, à Bernard Perron pour la conception des fameux réduchons. Peut-être un jour on aura l'équipe.
Les réduchons à nos pommes.
L'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste en réduchons, ce serait drôle. Merci à Nicolas Gallois, Jacques Valette, Pierre Rouquette et Georges Bonfils que vous êtes en train d'entendre pour le générique de fin de cette émission.
Il est au boulot.
C'est After Hour, le quartet qui va maintenant animer la soirée puisque c'est aussi une soirée Bleu Trompette dédiée aux partenaires, aux bénévoles, à tous ceux qui vont donner de l'huile de coude pendant 2 mois finalement, du 1er juillet au 29 août pour ce festival. On rappelle... il y a quand même des dates phares,
des dates
musicales. Le 23 juillet avec les Folkeux, le 24 juillet avec Sofas Sextet et le 25 juillet avec Ricard Gili Quartet. C'était Qu'est-ce qu'on déguste depuis le domaine de Guillot, quelque part.
À Montpezat de Quercy.
Dans le Quercy.
Voilà, on est bien.
Bon week-end. Merci
Quercy
Gaël.
Blanc, plein de
merci
calcaire.
À tous. Merci Christophe.
Salut les gars, la semaine
merci
prochaine.
Merci Pascal.
Merci à
merci
vous.
Georges pour la musique.
Merci Aurélien pour la technique.